Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bonjour, c'est Morgane. Bienvenue dans les ateliers radiophoniques de Canal B. Vous allez entendre le premier volet d'une émission réalisée par Maya, Esmeralda, Swad, Fatima, Sharifé, Warda, Ashraf, Serhan, Fatma et Rick, qui apprennent le français à langue et communication avec Anaïs Hiver et Laurie Soulabaille. Ils ont choisi pour thème la fête. Et dans l'ordre, vous allez entendre Esmeralda parler du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Fatima raconter l'importance de la fête de Nowruz pour le peuple kurde. Sharifé a choisi de parler du 14 juillet, fête nationale française. Et elle fait un lien avec la récente prise de la prison de Saïd Naya et la libération du peuple syrien. Ashraf parlera de la fête de la musique qui lui rappelle l'ambiance des rues en Tunisie. Et Swad s'émerveillera du jour de l'an. Un grand merci à André Métayer et Marie-Brigitte d'Amitié Kurde de Bretagne et à Yvan Lebras de La Pulse. La semaine prochaine, vous entendrez la suite et notamment une interview d'Alice Butet des Tombées de la Nuit et de Sophie, formatrice à langue et communication, qui parlera de mariage.
Bonjour, nous sommes 7 étudiants à langue et communication de nationalité.
Syrien, syrienne,
tunisien,
albanaise,
tchétchène, russe,
yéménite,
marocaine.
On s'appelle
Suad,
Maya,
Esmeralda,
Fatima,
Sharifé,
Ashraf,
Warda et Serhan qui n'est pas pu venir aujourd'hui.
Nous apprenons la France et nous faisons une émission de radio sur la fête avec Morgan de Canal B, Laurie et Anaïs. Nous avons découvert des fêtes qui se passent en France, comme le carnaval, la fête de la musique, la fête nationale française.
Nous avons partagé nos idées sur les mariages, sur les droits, sur les interdits. Nous avons interviewé des membres de l'association Amitié Kurde de Bretagne pour parler des Nowruz. Sophie, sur les mariages catholiques. Nous avons interviewé Alice des Tombées de la Nuit et Yvan de l'association La Pulse qui organise le carnaval de Rennes. Nous avons fait des recherches au champ libre sur la fête. Nous vous souhaitons une bonne émission.
Pour moi, la fête, c'est national.
Pour moi, la fête, c'est la musique.
Pour moi, la fête des amis.
Pour moi, la fête, c'est liberté.
Pour moi, la fête, c'est la vie. Pour moi, la fête, joie.
Pour moi, la fête, c'est l'ambiance.
Je veux parler de la fête des femmes, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le 8 mars en Albanie, car c'est un jour où on parle du droit des femmes dans mon pays. La dernière fois, j'ai fêté cet événement en Albanie avec d'autres femmes que je ne connaissais pas. C'est une très belle expérience, car on a fêté la liberté et les droits des femmes. De nombreuses femmes ont participé, elles étaient courageuses et fortes. Je me sentais libre d'énoncer la justice. Cette fête a lieu dans toutes les villes d'Albanie. Elle dure toute la journée. Cette fête existe en Albanie depuis 1989, car c'est l'année de la démocratie. Avant, il y avait un dictateur et les femmes n'avaient pas de droits. Pendant cette fête, nous sortons dans la rue, nous organisons des manifestations, nous parlons des droits des femmes au travail, du divorce, de la violence. La société a changé, il y a plus de droits pour les femmes. J'aime cette fête car je parle avec beaucoup de femmes et je me sens motivée pour améliorer la vie des femmes.
Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes. Nous sommes le continent noir de poules, fameux esclaves, et brisons nos entraves.
Je vous parlais du Nowruz, car cette fête est très importante pour les Kurdes. J'ai fêté cet événement pour la dernière fois le 21 mars 2024 avec ma famille. C'était au Gayol. Je porte une robe flore. Nous avons fait un barbecue et mes frères ont joué du tambour. Nous avons dansé avec d'autres courtes. Il y avait aussi des chants nationaux. Nous avons jeté le drapeau kurde. C'était joyeux et j'étais très content. Cette fête dure 2 jours et existe depuis 3 000 ans. À cette occasion, on célèbre le printemps et la liberté du Kurde. J'aime cette fête car je rencontre mes amis et ma famille. C'est important pour moi de ressembler à tous les Kurdes. C'est aussi le jour de la fête de mère. Donc, j'offre un cadeau à ma mère.
Bonjour, je suis Fatima, je suis syrienne et kurde aussi. J'ai étudié en langue commission. Est-ce que vous pouvez me présenter, s'il vous plaît?
Donc moi, je m'appelle André Métayer. Je suis président fondateur des Amitiés kurdes de Bretagne. Et le premier contact avec les Kurdes, ça a été à Nowruz.
Merci de nous accueillir d'abord, pour commencer. Moi, je suis donc Marie-Brigitte. Je suis aux Amitiés kurdes de Bretagne depuis une vingtaine d'années. Et j'ai participé à des missions au Kurdistan turc. Je suis allée aussi au Kurdistan irakien. J'espère un jour pouvoir aussi aller au Kurdistan syrien, peut-être, voilà. Et puis surtout, les Amitiés kurdes ont beaucoup d'activités ici, sur lesquels on pourra revenir, bien sûr.
Merci. Sur la fête de Nowruz, qu'est-ce que Nowruz?
Nowruz, c'est d'abord une légende qui est très présente dans beaucoup de peuples du Moyen-Orient, notamment les peuples perses, mais aussi mèdes, et donc qui c'est à l'origine de l'histoire des Kurdes. Entre autres, mais aussi des autres peuples. Et je peux vous peut-être dire en quelques mots la légende de Nowruz, si ça vous intéresse. En fait, il y a bien longtemps, entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate, il vivait donc tout un peuple, et il y avait un roi qui s'appelait Déac, très cruel, qui terrorisait son peuple et qui était affligé d'une très grave malformation avec deux serpents qui lui le torturaient. Et donc, il demandait à ses hommes de main de lui fournir deux cervelles d'adolescents pour calmer ses douleurs. Et tous les jours, il y avait donc des adolescents qui étaient sacrifiés. Et un jour, un forgeron qui s'appelait Kawa s'est révolté. Et au lieu d'envoyer les cervelles de ses enfants, il a sacrifié un mouton. Et puis, la nouvelle s'est affûtée. Et tous les paysans ont fait la même chose. Et leurs enfants, ils les envoyaient dans la montagne. On sait ce que ça veut dire chez les Kurdes d'envoyer les enfants dans la montagne. Et Kawa les a organisés jusqu'à former une armée. Et l'armée de Kawa a défié le tyran Déac et l'a tué. Et le forgeron, pour saluer cette victoire, a allumé un grand feu sur la montagne et a agité avec son tablier de forgeron. Et tout le monde a compris qu'ils étaient libérés. Et donc, les pastèques qui dépérissaient sont devenues grosses, les fleurs qui se languissaient, sont devenues belles. Et tout le monde a fêté le névrose, le jour du renouveau du premier de l'an. C'est donc une fête à la fois joyeuse, puisque on organise des défilés, des danses, ce sont des instruments kurdes. Et c'est aussi une fête politique, puisque c'est la libération d'un peuple. Et dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend évidemment toute une signification.
Pourquoi cette fête s'appelle Névrose ?
Moi, j'ai toujours dit névrose, et je crois que ça veut dire jour de renouveau.
Combien de pays fête névrose et lesquels pays ?
Très sincèrement, je ne le sais pas. Je pense que c'est tous ceux qui ont comme origine perse ou mède.
Est-ce que névrose est une fête culturelle et nationale ?
C'est une fête nationale, c'est une fête culturelle. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, en allant un certain nombre de fois célébrer le névrose au Kurdistan de Turquie, et puis aussi en célébrant le névrose avec nos amis kurdes de Rennes et de Bretagne, que c'était une fête joyeuse, mais tournée vers la libération, donc une fête nationale, donc une fête politique.
C'est la fête du peuple kurde, mais qui malheureusement n'a pas de nation.
Et les premiers contacts, moi, avec névrose, datent de 1994-95. C'était une grande fête kurde. Et que à l'époque, l'État turc a essayé de faire une fête officielle en Turquie du névrose. Et ça a été un échec complet.
Combien de jours dure cette fête ?
En ce qui me concerne, ça a toujours été très bref. Je ne pense pas que ça dure des jours et des jours. D'autant plus que moi, à chaque fois que j'ai été fêter le névrose au Kurdistan de Turquie, c'était quand même sous la pression des forces militaires et policières. Et donc, les rassemblements duraient la journée. Le soir, ça devenait extrêmement dangereux, donc c'était terminé. À Rennes, pareil, par exemple, vous avez le dimanche, vous êtes invité à fêter le névrose au parc des Gailleuls, à Rennes. Le rassemblement est prévu pour midi, et le soir, ça sera terminé. Vous avez aussi le 23 dimanche, vous pouvez aussi fêter le névrose à Brest. Il y a aussi un rassemblement à Brest, pareil, dans la journée, quoi. Donc ça dure une journée.
Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il y a des prolongements de cette journée partout au Kurdistan, dans les petits villages, à travers la danse en rond des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le nom de cette danse, mais le lendemain et le surlendemain, quand vous vous promenez dans la campagne kurde, vous voyez ces jeunes-là qui dansent cette danse en rond, et qui comme un prolongement du névrose.
Est-ce que vous avez déjà assisté à un névrose en France ou à l'étranger ?
Je peux vous dire que la naissance des amitiés kurdes de Bretagne est liée à la fête du névrose, puisque c'est un étudiant kurde de Rennes qui a lancé un appel, a relayé un appel venant des Kurdes pour que des délégations étrangères participent au névrose en 1994, parce que l'année d'avant, ça s'est terminé dans un bain de sang. Et donc, on y a été en quelque sorte comme bouclier humain pour que la fête du névrose se passe du mieux possible. C'est comme ça qu'a commencé notre histoire, à savoir que quand on est revenu, on a dit qu'il fallait véritablement témoigner de tout ce qu'on avait vu, de tout ce qu'on avait vécu et de tout ce qu'on avait deviné. Et puis nous sommes retourner tous les ans. Donc nous avons participait à des névroses aussi bien à Diyarbakir, qui est la plus grande ville kurde de Turquie, que dans des villes plus modestes comme Bismil, comme Viranchehir, comme Yusekova, à la limite de la Turquie. De la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, donc véritablement au cœur du Kurdistan dont rêvent tous les Kurdes. Et nous avons aussi évidemment participé à tous les névroses qui se sont déroulées à Rennes avec les Kurdes de Rennes. Donc on peut dire que oui, on connaît bien la fête du névrose.
Je voulais juste apporter une précision, c'est qu'il y a un peuple kurde, mais que ce peuple kurde ne vit pas sur les mêmes terres et n'a pas de terres. C'est-à-dire qu'à l'issue en particulier de la Première Guerre mondiale, il y a eu un grand espoir que les Kurdes puissent tous se réunir, vivre sur la même terre et avoir leur pays, leur nation. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais il se trouve donc qu'aujourd'hui, il y a des Kurdes en Syrie, comme Mademoiselle. Il y a des Kurdes en Turquie, c'est là où il y en a le plus. Il y a des Kurdes en Iran. Et il y a des Kurdes en Irak. Hein. Mais donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est que le peuple kurde puisse s'exprimer. Et quand André évoque les bains de sang aux névroses, c'est parce qu'en particulier en Turquie, le président turc actuel a toujours empêché les Kurdes de vivre leur vie de peuple, hein, jusqu'à empêcher même qu'on parle kurde. Et donc, pour empêcher un peuple d'exister, on envoie, comme l'a dit André, on envoie l'armée, on envoie la police. Voilà pourquoi beaucoup de névroses se sont terminées, comme tu l'as très bien dit, André, dans des bains de sang.
Pourquoi Nowruz est une fête importante pour les Kurdes?
Ils sont inspirés par cette légende qui montre tout le processus pour la libération d'un peuple. Et donc, c'est le printemps, donc la vie reprend. L'hiver a été rude, la vie reprend, les fleurs fleurissent, on joue de la musique, on danse, mais on veut être libéré, on veut être libre. Et donc, il y a toujours les deux aspects, à la fois l'aspect fête et la fête libération. Nous voulons, en tant que peuple, avoir les mêmes droits que tous les autres peuples sur la terre.
Canal B 94.0.
Quelle est comme communauté ou groupe organisé les festivités de Nowruz en Bretagne?
De ce que je connais, c'est Amara, l'association Amara, le centre démocratique kurde de la Bretagne, de Rennes, qui est une branche du Centre démocratique kurde de France. C'est l'organisation à la fois culturelle et politique des Kurdes avec laquelle on est en liaison. Si d'ailleurs notre association est surtout en rapport avec les Kurdes de Turquie, c'est parce que tout naturellement nos liens se sont créés avec les Kurdes qui vivent à Rennes et qui sont nés de l'immigration économique d'abord et puis après politique, à savoir les gens qui ont fui leur pays pour des raisons politiques. Et donc on a passé quelques heures devant les tribunaux administratifs pour que leurs droits soient reconnus et qu'ils puissent avoir les papiers nécessaires pour vivre en France. Et voilà, des liens se sont créés, mais ce sont eux qui sont évidemment à l'initiative de toutes les activités proprement kurdes.
Quelles sont les principales activités dans l'association ?
Alors, les principales activités, justement, elles sont à la fois sur Rennes et la Bretagne et à la fois dans les pays d'où les Kurdes viennent. La majorité des Kurdes qui viennent, qui vivent à Rennes, viennent de Turquie. Donc, nous avons eu principalement des activités avec la Turquie, avec les Kurdes de Turquie. Mais depuis quelques années, nous avons aussi pris des contacts avec les Kurdes d'Iran, d'Irak, et bien entendu avec les Kurdes de Syrie. Une mission par deux fois se sont rendus dans cette région de Syrie qu'on appelle Rojava, et qui est donc votre région, si j'ai bien compris. Vous venez de quelle ville ?
C'est
Afrin. Afrin, oui. Ok. C'est très douloureux. Donc, notre action peut, dans tous les cas, que ce soit sur Rennes, la Bretagne ou dans ces pays-là, c'est d'abord de soutenir ces gens. Et comment on peut le faire ? On ne va pas se battre à la place des Kurdes. On va simplement être avec eux. Donc, on peut l'être de plusieurs manières, c'est-à-dire en récoltant un certain nombre de témoignages, de renseignements, et de le faire savoir. Par exemple, nous avons une action très précise, très intense, avec tous les détenus politiques qui se trouvent en Turquie. Nous avons notamment une correspondance assez suivie avec des femmes détenues dans la prison des Lazires, qui nous ont fait comprendre combien il était important pour les détenus de savoir que on ne les oubliait pas, qu'on pouvait que leur témoignage, leur engagement politique, leur souffrance sortaient des murs de la prison et que ils étaient publiés. Voilà, ça c'est l'autre activité importante également, c'est tout ce qui pourrait s'appeler la coopération. Par exemple, des missions ont été dans des camps de regroupement pour animer des activités en faveur des enfants, par exemple. C'est aussi inciter, soutenir les coopérations qui peut exister entre villes. Il y a, par exemple, bien avant nous, depuis 1979, une coopération entre la ville de Rennes et la ville de Diyarbakir. Évidemment, nous la soutenons et on peut dire que nous sommes un petit peu l'aiguillon qui pousse nos élus à maintenir, voire développer toutes les activités de coopération qu'il peut y avoir entre les villes. Bien entendu, la ville de Rennes a défendu, soutenu les maires successifs de Diyarbakir qui ont connu, qui connaissent encore la prison, puisque une des actions pour abattre le peuple kurde est destituer les maires élus, leur coller des procès et les maintenir en prison pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Alors, vis-à-vis des Kurdes de Rennes et de la Bretagne, ça a été aussi de les soutenir dans leurs actions. Par exemple, c'est pas nous qui organisons le névrose, hein. C'est les Kurdes qui organisent le névrose. Mais bon, on va tout faire pour que ça puisse être popularisé, que ça puisse avoir un succès, qu'on puisse parler de toutes les actions, les difficultés, les espoirs du peuple kurde. Et comme je le disais, une des actions qui a été importante, notamment donc dans les années 90-2000, a été la défense des Kurdes devant les tribunaux pour obtenir les papiers nécessaires pour vivre en France. L'association, depuis le début, a participé à l'apprentissage du français pour les Kurdes venant à Rennes pour plusieurs raisons. La première, c'est pour obtenir les papiers, il fallait quand même parler un petit peu français. Donc c'était important que cette phase-là soit connue. Et puis d'une façon générale, pour pas une assimilation, mais pour une insertion dans la société, c'était important que les Kurdes puissent parler français.
Comment l'agent PUF participer aux activités organisées par l'association kurde?
Nous, notre association, elle a un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'on facilite la connaissance ici de ce qui se passe là-bas. Donc, pour pouvoir communiquer ici sur ce qui se passe là-bas, on va aussi là-bas. Et quand on va là-bas, on va en mission, on est missionné. Là, on va repartir au mois d'avril, en Turquie. Et là, on a une mission en particulier avec la ville de Rennes. On a une lettre de mission. Mais il se trouve, comme vous l'a dit André, qu'il y a une prison avec laquelle nous sommes en contact et avec laquelle les prisonnières ont répondu. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Oulia Alokmen. Nous avons décidé de parler de ces conditions des détenus en prison parce que c'est aujourd'hui, c'est pas il y a 20 ans. Bien sûr qu'à 20 ans, ça existait déjà. Mais encore aujourd'hui, il y a des femmes de votre âge, mesdames, qui sont en prison en Turquie uniquement parce qu'on a porté un drapeau dans une manifestation, ou parce que sur les réseaux sociaux, on a soutenu un film en kurde qu'on a trouvé intéressant. Eh bien, on peut être inquiété, voire emprisonné pour ça, aujourd'hui. Et donc, cette petite opération stylo, c'est une manière de montrer ce qu'on fait. Et alors, pour répondre aussi à une autre partie de la question, et après je laisse André répondre, vous pouvez venir toujours assister à une assemblée générale ou un conseil d'administration de notre association. Si vous avez envie de venir nous dire bonjour dans notre prochain CA, vous serez les bienvenus.
Depuis combien de temps l'association existe ?
30 ans. Elle s'appelait à l'époque la délégation rennaise Kurdistan. Alors, est-ce que le public rennais répond avec difficulté, bien sûr, comme toutes les autres associations ? Oui, c'est compliqué de faire connaître la cause kurde chez nous, en France, mais aussi en Europe, mais aussi dans le monde entier. Parce que c'est dans un contexte aussi international. Donc notre rôle, c'est aussi d'interpeller nos élus. Ça fait partie du job.
Quelle est l'histoire du peuple kurde ?
Alors, je vais vous dire, très honnêtement, je ne suis pas historien. Je sais simplement, pour avoir lu notamment, et je vous engage à le faire, il y a l'Institut kurde de Paris, qui est très compétent pour répondre à cette question-là, et qui a publié un certain nombre de choses. Et puis, il y a également Abdullah Öcalan, qui, lors de son procès en 99, a beaucoup parlé des origines du peuple kurde. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le peuple kurde est un des peuples les plus anciens de Mésopotamie, que son histoire a plus de 4000 ans d'existence, et que c'est eux sont véritablement le peuple d'origine dans cette région. que les Turcs sont venus beaucoup plus tard, un peu comme les envahisseurs.
Il y a plein d'endroits dans le monde où c'est la même chose, où les gens sont là, et puis on vient les embêter et essayer de les déloger. Je pense aux Palestiniens.
Oui, c'est beaucoup plus douloureux, bien sûr. Bien sûr.
Mais aussi aux Amérindiens, enfin voilà. Oui.
Mais aussi aux Ukrainiens.
Oui, tout à fait. Aux Géorgiens, oui.
Oui, bien sûr, les invasions, ça a été les Huns, par exemple, etc. Donc, pour en revenir au peuple kurde, bon, on peut retenir quand même une chose, c'est que entre le Tigre et l'Euphrate, c'est le peuple qui était là bien avant les autres.
Parce qu'il y a une grosse problématique toujours aujourd'hui autour du fleuve. Parce que vous savez bien que par le fleuve passe la vie. C'est l'eau, c'est les barrages, c'est l'électricité. Et quand l'eau part de Turquie pour aller, par exemple, en Syrie, eh bien, les Turcs peuvent utiliser l'eau pour bloquer l'eau en Syrie. Et nous travaillons, nous, actuellement, justement... Moi, j'ai un rendez-vous ce midi, une visio, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais nous avons beaucoup de partenariats, nous avons des partenaires, et nous travaillons avec un collectif qui s'appelle Water for Rojava, justement, parce que là-bas, il y a des difficultés avec une pompe sur le fleuve, parce qu'elle est bombardée sans arrêt par les Turcs. Or, cette pompe, elle alimente en eau potable plus de 100 000 personnes, quand même. Donc, voilà, le Tigre et l'Euphrate, comment ça se passe? Comment les Kurdes sont répartis par rapport à ces fleuves-là?
Comment avez-vous commencé à soutenir les Kurdes?
Je ne suis pas kurde, je ne suis pas marié à une kurde, voilà.
C'est effectivement ce à quoi on aurait pu penser.
Il y a un livre qui s'appelle, de l'association qu'on a écrit, qui s'appelle 25 années auprès du peuple kurde. Et je raconte pourquoi 30 ans après, je suis toujours là. Je crois qu'il y a deux personnes qui m'ont particulièrement marqué. Et donc, dans notre premier voyage en 94, on était quatre. On a servi un peu de garde du corps, par exemple, à Osman Baydemir, l'ancien maire de Diyarbakir, qui était à l'époque président du barreau, à traverser la rue, tout simplement. Avec une délégation allemande, on a été dans un petit village qui s'appelait Homburlu. Et j'ai été très frappé par... les gens fuyaient. Et il y avait une maison où les ruines fumaient encore, avec l'odeur du bois brûlé. Et les gens partaient. Et il y avait des voitures sans plaques qui tournaient autour. Bon, les voitures sans plaques, c'est la police. Un homme est venu nous rencontrer en courant et nous a expliqué comment ce village avait été incendié par l'armée, comme 4 autres 1000 villages d'ailleurs. Et on a fini, comme il y avait la police qui était autour, on a fini par lui dire « Allez, partez parce que vous allez avoir des problèmes ». Il a répondu « De toute façon, ils vont me tuer. Si je parle pas, ils me tueront, mais si je parle... ils me tueront, mais vous pourrez au moins redire les choses. » Et ça m'a marqué. L'autre personnage très important était un Kurde qui est venu à Rennes, qui accompagnait une délégation. Et puis, il s'est retrouvé en prison à Fleury-Mérogis. J'ai demandé le droit de visite. Je l'ai obtenu. Et j'ai donc, pendant des mois... visiter ce détenu, injustement retenu dans des prisons françaises. Et on a obtenu sa libération conditionnelle. C'est en 98. Il est venu chez moi. Il est aujourd'hui le représentant du parti kurde en Europe.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'appel de l'étudiant en 93 qui dit « Venez nous aider à fêter Nowruz parce que voilà comment ça s'est terminé ». Qui fait que vous entendez cet appel et que vous vous dites « je vais y aller ». Et c'est en fait la rencontre et le fait d'avoir été témoin d'exactions turques qui fait que vous prenez fait et cause pour le peuple kurde.
Bien sûr. Cet étudiant, je peux le nommer, Il s'appelle Bulent, on est toujours en contact. Et il nous apporte une aide inestimable parce que c'est un traducteur. Et à une autre rencontre dont je ne peux pas ne pas parler. Elle s'appelait Rochebine. C'était une jeune femme qui était la directrice du centre d'information du Kurdistan. Et que j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Et évidemment, elle n'allait pas en Turquie car elle était en prison. Et cette jeune femme a été assassinée à Paris le 13 janvier 2013. C'était une amie. On a obtenu qu'un square de la ville de Rennes porte son nom. Square Rochebine Doran.
Qu'est-ce qui est difficile dans cette lutte?
Je pense que c'est d'être un peuple nié, non reconnu. Maintenant, on commence à savoir, à connaître le peuple kurde. Mais moi-même, il y a 30 ans, j'ignorais tout du Kurdistan. Je crois que c'est cette négation, c'est une vraie souffrance. Oui, je crois que c'est ça. Et la première chose, je crois que ce que souhaitent les Kurdes, c'est de pouvoir parler kurde.
Pause musicale sur Canal B dans l'émission de Langue et Communication. On écoute Malik Djoudi, quelques mots.
En face à face. S'adresser juste quelques mots. Juste en surface. S'adresser quelques mots.
Malik Djoudi, quelques mots sur Canal B.
Je veux parler de la fête nationale parce que c'est un jour liberté. Je n'ai jamais assisté à cette fête. Il y a eu dans toute la République française. Il dort un jour. Cette fête existe depuis 1789. À cette occasion, on célèbre la liberté, la égalité, la fraternité. Pendant cette fête, il y a un grand défilé militaire à Paris. Des feux d'artifice et de la musique dans tous les pays. J'aime cette fête car c'est la libération de tout un peuple de l'injustice et de la monarchie absolue. Le 14 juillet 1789, les Français ont pris la prison de la Bastille. Je pense à la Syrie car le peuple syrien a pris la prison des Sidnaïens et la dictature est finie. Notre fête à nous en Syrie, c'est le 8 décembre 2024 parce que c'est la libération de notre peuple.
J'ai choisi la fête de la musique. C'est le 21 juin. Il y a de l'ambiance et tout le monde sort dans la rue. J'ai fêté cet événement l'année dernière avec des amis. Nous avons écouté différents groupes. Je suis entré à minuit 30. À cette fête dure une journée. Il existe depuis 1982. À cette occasion, on célèbre la musique. Il y a différents styles de musique. Rock, jazz, électro, reggae. La musique partout. Dans la rue, dans les bars, dans la maison, sur les balcons. En Tunisie, il y a tout le temps de la musique dans la rue. Ce ne sont pas des professionnels qui jouent. Ce sont des jeunes, ils font beaucoup de rap. Ils partagent les bonnes énergies. Et les personnes écoutent et applaudissent, mais ne donnent pas d'argent. La fête de la musique me rappelle l'ambiance de la Tunisie, mais sans alcool bien sûr.
J'ai choisi de parler du Nouvel An car c'est une fête qui célèbre à la fois une fin et un début. C'est une fête mondiale. J'ai fêté cet événement au centre-ville de Rennes la dernière fois avec des amis. C'était bien, j'étais heureuse. Nous avons mangé dans un restaurant. Il n'y avait pas beaucoup de place dans le restaurant. Nous sommes allés à l'esplanade Charles de Gaulle. On a attendu minuit pour regarder la fête d'artifice. C'est la première fois de ma vie que je suis restée à l'extérieur jusqu'à minuit. Cette fête a lieu partout en France et dure une journée. Cette fête existe depuis le 16e siècle dans la plupart des pays européens. Tout le monde sort pour faire la fête. Les restaurants sont pleins. J'aime beaucoup les moments de conte à repos et la fête d'artifice. Au Yémen, la musique s'est interdite dans la rue. Les femmes ne peuvent pas sortir faire la fête. Il n'a fait pas sortir de tout. Et si il y a beaucoup de lumière, de décoration, il y a de la joie, il y a de l'ébriété. Le Nouvel An, c'est interdit au Yémen, car ce n'est pas une fête musulmane.
On a interviewé Yvonne de l'association Le Pulse.
Pouvez-vous vous présenter?
Donc bonjour, moi je m'appelle Yvan, j'ai 36 ans, j'habite à Rennes depuis 2008 et j'organise le carnaval de Rennes.
À quelle date a eu lieu le premier carnaval à Rennes?
Alors le carnaval existe depuis longtemps, je crois que dans les années 1950 il a été organisé par des étudiants à Rennes. Et dans les années 1990 et début 2000, ça s'est transformé dans un événement qui s'appelait Mardi Gras, jour férié, qui était le jour de Mardi Gras, et qui était organisé par d'autres associations. Ça s'est arrêté au moment du Covid. Et depuis 2023, notre équipe a remis en place le carnaval de Rennes, là qui a lieu un samedi dans le centre-ville de Rennes.
Est-ce que le carnaval est une fête nationale?
Alors c'est à ma connaissance, enfin c'est pas vraiment une fête nationale puisque c'est chaque ville ou chaque commune qui va organiser son carnaval un peu quand il le veut. Après Il y a des périodes de carnaval, de manière historique, qui sont plutôt en février ou mars. C'était lié notamment au calendrier des pêcheurs qui rentraient en fait de grandes sessions de pêche et faisaient la fête ensuite en revenant. Mais il n'y a pas de fête nationale française du carnaval, mais ce serait une bonne idée.
Qu'est-ce que vous préférez dans le carnaval ?
Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le carnaval, c'est le fait que ce soit ouvert à tout le monde et que n'importe qui puisse venir se déguiser, faire la fête. Et ça permet que des gens se mélangent, quelle que soit leur profession ou d'où ils viennent ou quel que soit leur âge. Et ça permet vraiment que tout le monde soit ensemble pour faire la fête et d'oublier aussi un peu des fois nos différences, de juste penser à être ensemble.
Quel est le type d'instrument de musique utilisé pendant le carnaval?
Ça dépend des carnavals. En fait, il n'y a pas de style de musique forcément prédéfini. Il peut y avoir quelqu'un qui vient avec une enceinte de musique et qui va passer du R&B, du reggaeton, de la house music, c'est pas interdit. Sur le carnaval de Rennes, on a plutôt fait appel à des formations qui jouent plutôt des musiques brésiliennes ou alors des musiques antillaises. Donc c'est des grandes fanfares, donc qui font des musiques qui viennent plutôt d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Mais on a eu des années où il y a eu des fanfares là qui venaient avec des cuivres et donc des musiques plutôt des Balkans. Donc c'est très varié. Il n'y a pas de règles. Tant que ça amène de la fête et de la joie, il n'y a pas de style de musique prédéfini. En tout cas, dans le carnaval de Rennes, comment nous on l'entend. Sur d'autres carnavals, peut-être qu'ils font des choix artistiques qui sont différents.
Est-ce que tous les pays du monde célébrent les carnavals?
C'est une bonne question. Alors, je pense que le carnaval est fêté dans beaucoup de pays, mais je pense que ça dépend en fait des cultures aussi des pays. Je ne crois pas que tous les pays célèbrent le carnaval. Après, il n'y a aucune interdiction. En vrai, tous les pays peuvent. Mais je pense que le carnaval prend peut-être d'autres formes ou d'autres noms. Dans certains pays. Mais l'esprit de fête, je pense qu'elle se retrouve dans toutes les cultures. C'est juste que certains appellent ça un carnaval et d'autres vont créer des événements qui vont peut-être avoir d'autres noms. Mais il y a quand même beaucoup de pays, on retrouve des carnavals dans quand même beaucoup de pays et beaucoup de cultures.
Quel est le but de la fête du carnaval ?
Alors, d'un point de vue historique, il y a plusieurs raisons. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être lié au fait que les marins pêcheurs revenaient d'une grande session de pêche et venaient faire la fête en rentrant chez eux. Dans certaines cultures, c'est le fait que ce soit la fin de l'hiver et le démarrage du printemps. C'est un peu souvent les deux grandes raisons historiques. Nous, après, à Rennes, on a choisi de faire le carnaval parce qu'on savait qu'au mois de mars, c'était la période des carnavals et qu'on voulait créer un événement festif dans cette période-là. Donc, à Rennes, il n'a pas cette signification des marins-pêcheurs parce qu'on n'a pas de marins dans la ville. Et puis, on est sur la fin de l'hiver. Et nous, c'est créer un moment de fête qui rassemble tout le monde, quoi. On pourrait imaginer le carnaval plus tard. À Rennes, en tout cas, ça ne nous poserait pas de soucis. Mais la raison principale, c'est faire la fête.
Pourquoi on célèbre le carnaval ?
Il peut y avoir plusieurs raisons. La fin de l'hiver, le retour de personnes après des longues périodes d'absence, ou sinon des fois des raisons religieuses. Où ça vient célébrer, soit amorcer une période notamment de jeûne dans certaines religions, ou alors la fin d'une période religieuse qui vient illustrer un peu le moment de fête où tout le monde se rassemble.
Est-ce que le carnaval est une fête religieuse?
Oui, dans certaines cultures, le carnaval a un lien avec la religion. C'est pas le cas partout. Et puis il y a des carnavals qui aujourd'hui existent qui sont pas liés à la religion. Mais d'un point de vue historique, il y a plusieurs carnavals qui sont nés à partir de la religion. Ouais.
Bonjour encore. J'ai 7 et 8 questions. Ouais. Première question. Depuis quand existe l'association Le Pulse?
Alors, l'association La Pulse, elle existe depuis avril 2020. Donc, ça fait 5 ans qu'elle existe.
Combien de personnes travaillent dans l'association?
Alors, on est tous bénévoles. Donc, on y travaille, mais on ne gagne pas d'argent dans l'organisation. Et on est une équipe de 6 personnes qui travaillent vraiment toute l'année sur l'organisation des événements. Et le jour des événements, on peut avoir jusqu'à 40 ou 50 bénévoles qui viennent en plus pour nous aider.
Pour qui votre association était créée?
Pourquoi on l'a créé? On est tous joueurs ou joueuses dans des formations de percussion. Notamment, on joue dans des batucadas, qui sont des formations de percussion brésilienne. Et on avait l'envie de créer à Rennes des moments de fête qui pouvaient rassembler tout le monde et qui mettaient en avant différentes formations autour de ce qu'on appelle musique du monde, donc qui mettent en avant aussi différentes cultures, la culture brésilienne, différentes cultures de pays d'Afrique, notamment à travers des percussions africaines. Et voilà, c'est né comme ça. On avait l'envie de créer des événements festifs que nous, on ne retrouvait pas toujours à Rennes, ou alors dans des petits lieux. Donc on avait l'envie de leur donner une ampleur un peu plus grande. Et pour qui? Pour les Rennais. On avait envie de créer tout ça pour donner des moments de joie et de plaisir aux habitants rennais et de différents quartiers. Voilà.
Pourquoi vous avez choisi la nom les associations Pulse?
Alors c'est parce que ça fait penser à la pulsation, qui est un mot qui indique en fait le tempo et qui indique le rythme. Donc voilà, ça vient du mot pulsation et on l'a contracté pour dire pulse. Et voilà, et dans le nom de l'asso, on essayait de trouver un nom qui était assez sympathique à dire et que les gens retiennent. Voilà. Mais En vrai, on essaye plus de communiquer sur les événements qu'on organise, donc pas comme le carnaval, plus que sur le nom de l'association. Le nom de l'association, il est un peu au second plan. C'est pas grave si les gens ils le retiennent pas. Ce qu'on veut surtout qu'ils retiennent, c'est qu'il y a le carnaval de Rennes. Après que ce soit organisé par nous, pour le public, en tout cas, on trouve que c'est pas le plus important.
Et là, ça a lieu samedi.
Le samedi 15 mars, donc c'est dans 2 semaines et demie. Ouais.
Et vous attendez combien de personnes?
Alors, sur les 2 premières éditions, on a eu quasiment 7000 personnes. Donc, on attend entre 8 et 10 000 personnes. Ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Bonne journée.
Le premier volet de l'émission de langue et communication est à présent terminé. On se retrouve samedi prochain pour écouter le second épisode.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
It's the earth. The earth is my body. My head is in the stars.